Bonjour, Raymond Richard au micro, et bien nous nous retrouvons pour l'émission Terre solidaire. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la question de l'eau. L'eau, c'est la vie, on le sait. C'était un slogan du CCFD il y a quelques années, dans une campagne pour amener l'eau potable dans le monde entier. Mais il reste que cette question est récurrente. Et parlons un peu de ce paradoxe qui montre que les savants, la NASA, cherchent, voyons, y a-t-il de l'eau sur Mars? Y a-t-il de l'eau sur d'autres planètes? Et en même temps, il y a, disons, au bas mot, 2 milliards d'habitants qui n'ont pas accès à l'eau potable, et puis plus de 4 milliards qui n'ont pas accès à l'assainissement. C'est encore plus important en Afrique, et notamment dans la zone sahélienne. Et sur Terre, on a toujours la même quantité d'eau disponible, mais nous sommes de plus en plus nombreux, et le changement climatique, parlons-en tout de même, rend l'accès à cette ressource en eau beaucoup plus difficile. C'est important l'eau, puisque la moitié des maladies du monde sont liées à l'eau. Il y a le paludisme, certes, mais aussi toutes ces diarrhées, toutes ces parasitoses qui sont liées aux bestioles qui se développent dans les zones humides et qu'on ne contrôle pas. Lorsque l'hygiène est insuffisante parce qu'il n'y a pas d'eau, il y a encore le choléra. Donc, on voit que la question de l'eau reste très importante. Alors, parlons un peu de ce changement climatique. Cela rend les choses plus difficiles. Les puits qui existent, et notamment les puits qui fonctionnent avec l'homme, à pompe manuelle, sont désertés, parce qu'il faudrait les réapprofondir, car la nappe phréatique s'enfonce. Et puis, lorsqu'on va racler l'eau au fond du puits, parce qu'on est en fin de période de, disons, d'eau suffisante, eh bien, on récupère beaucoup de boue, beaucoup de bactéries, donc cela nuit à la qualité de l'eau. Ensuite, on s'est dit qu'il fallait identifier les ressources, et notamment les ressources souterraines, puisque c'est d'elles que vient l'eau douce, voir comment elle se renouvelle, essayer de repérer comment, à cause des pluies violentes, avec les changements climatiques, mais aussi qui provoquent des inondations, on peut soit canaliser, enfin faire en sorte que l'eau ne se perde pas et qu'elle arrive bien pour reconstituer ses sources souterraines. Et enfin, ce pompage des eaux souterraines fragilise la nappe. Et dans les zones qui sont pas très loin de la mer, il y a dans certains cas la salinisation des nappes, ce qui pose évidemment un problème. Soluble dans nos régions européennes, on sait désaliniser l'eau de mer, on sait gérer ces problèmes, mais dans les pays pauvres, c'est encore plus difficile. Et alors on a des situations tout à fait paradoxales. Par exemple, au Burkina Faso, actuellement, on recherche comment utiliser l'eau rejetée par les brasseries. Ça veut dire qu'en fait, on a accès à la bière. C'est facile d'acheter une bouteille de bière. C'est plus difficile d'acheter une bouteille d'eau, et ce qui coûte le plus cher, c'est l'eau. Donc, on voit que travailler sur l'utilisation aussi des bouts de vidange, des eaux usées, c'est l'option des laboratoires. Mais pendant ce temps-là, dans le village, la question de l'eau est très difficile. Alors justement, allons voir un peu comment ça se passe dans le village. L'eau disponible provient de quelques puits situés dans le centre ou bien au périmètre maraîcher. L'eau est puisée à la main. C'est un travail particulièrement pénible, traditionnellement exécuté par les filles et les femmes. Elle transporte cette eau jusque dans les cases, et pendant ce temps-là, en tout cas les jeunes filles ou les petites filles ne vont pas à l'école. La deuxième chose, c'est que cette eau est de très mauvaise qualité. Elle est souillée pendant la saison sèche, quand le puits baisse et qu'il faut racler le fond du puits. Elle est contaminée par des germes parasites. Et les enfants, les personnes âgées, les personnes fragiles sont affectées par des diarrhées. Et puis enfin, c'est aussi un aspect important, dans la mesure où les jeunes ne vont pas à l'école, les mamans ne vont pas à l'école. Lorsque ceux-ci justement sont à l'école, pour boire, ils retournent à la maison. Mais comme c'est loin, ils ne reviennent pas forcément. Donc l'absence d'eau, cela entraîne aussi l'absence d'éducation. Et inversement, un point de distribution d'eau potable installé, qui assure une eau de bonne qualité, dans des récipients propres, à un prix accessible, permet de changer complètement la vie. L'eau potable au robinet, c'est une étape majeure. On boit une eau de bonne qualité. L'hygiène est améliorée, l'assainissement est amélioré, et tout va beaucoup mieux. À long terme, pour l'éducation et la formation des gens du village, avoir de l'eau, c'est en même temps éduquer. Nous avons évoqué la question de l'eau, paradoxe, en 2019, mais aussi combien avoir de l'eau potable ou de l'eau à un robinet, ça change totalement la vie. Encore faut-il qu'il y ait une bonne gouvernance, parce que au-delà de la construction d'un puits, il faut s'organiser pour voir où on va mettre le puits. Comment vont se répartir les pompes? Qui va payer l'eau? Parce que les outres et les bidons, qui sont sales, il y a toute une éducation à faire. L'eau, lorsque l'eau arrive, il faut aussi couvrir les récipients, les nettoyer. Mais avec quelle eau? Entretenir les équipements. Établir un périmètre proche autour des points d'eau. Un périmètre dans lequel on ne pourra pas faire divaguer les animaux, un périmètre dans lequel on ne pourra pas verser des latrines. Donc, c'est toute une gouvernance. Il faut lutter contre les décharges sauvages, contre les déchets qui par infiltration polluent la nappe, établir des périmètres de protection autour des sources, autour des zones de pompage, réglementer les activités dans la région. Donc, pour tout cela, il faut l'implication de tous. Donc, bonne gouvernance de l'eau, c'est à la fois une bonne gouvernance au niveau de l'État, du village, mais c'est aussi associer les gens du village pour que, peu à peu, ils perçoivent l'intérêt d'avoir des toilettes, de ne pas déféquer n'importe où dans la nature, établir une charte de l'eau, et finalement, faire accepter aussi que l'eau est un prix. Parce que ce qu'on paye devient précieux. Donc, il faut aussi changer les habitudes. Aller aux toilettes, mais ça veut dire qu'il faut en construire. Prendre l'habitude de se laver les mains. Repérer et aménager les points où les animaux viennent boire. Bref, établir que l'eau doit être payée, mais qu'il y ait aussi un agent qui va entretenir les installations, échanger avec la population. Il faut qu'ils parlent la langue de la population, relever les compteurs, et puis que ces efforts soient consentis par tous. Parce que, par exemple, dans un village auquel on proposait de l'eau, les gens disaient « mais pourquoi ? On n'en a pas besoin, il y a les femmes qui font ce travail ». Donc, on voit qu'il y a, concomitamment avec la gouvernance de l'eau, il faut que l'innovation technologique aille avec l'innovation culturelle. Et c'est en cela que le CCFD joue un rôle important. Par exemple, les partenaires de Haïti nous disaient combien ils essayaient d'identifier la maladie liée à l'eau, la personne qui avait le choléra pour repérer tous ceux qui étaient entrés en relation avec cette personne pour pouvoir faire en sorte que ce ne soit pas une explosion de microbes et de maladies. Donc, ici et là, il faut des associations qui se constituent. Et puis enfin, faire venir une canalisation qui amène l'eau potable, c'est quelque chose de cher. Et pour cela, il faut les efforts de tous, y compris les nôtres. Et de ce point de vue-là, eh bien, rappelons la loi Santini qui permet aux agences de l'eau, au système de l'eau, à toutes nos structures de l'eau, ici, de consacrer 1% de leur budget à des projets de développement internationaux pour l'eau. Parce que c'est important, et parce que très vite, les économistes, les gens qui cherchent à faire de l'argent, se sont dit « Ah, mais l'eau, voilà un marché juteux ». Alors ainsi, par exemple, la libéralisation du marché de l'eau a entraîné l'activité de l'embouteillage. Et on voit, par exemple, que au Mexique, loin des zones qui sont bien desservies en eau, eh bien, on détient le record de l'alimentation en eau en bouteille, avec 234 litres par habitant et par an. Donc, on voit que il y a des dérives à éviter et que l'eau, c'est à la fois l'eau localement, la gestion villageoise, mais aussi une politique de l'eau. Il faut s'inquiéter de l'éducation à l'eau, de comment on va à la fois préserver la ressource et puis l'utiliser raisonnablement. Et pour terminer, posons la question, et ici, est-ce que tout est réglé? C'est vrai que nous habitons dans une région, dans une zone au climat favorisé en ce qui concerne l'eau, mais tout de même, dans la région du Nord, la salinisation des eaux souterraines sous l'effet des prélèvements est une préoccupation sous ces dunes des bords de la mer du Nord. Et puis, on sait que 10% des familles françaises ont du mal à payer la facture d'eau. L'été dernier, des préfets ont pris des mesures de restriction d'eau, interdiction d'arroser ou interdiction de laver les voitures. En tout cas, une incitation pour que chacun maîtrise sa consommation. D'ailleurs, on a installé dans les résidences des compteurs divisaires. La question se pose, faut-il rationner l'eau? Dans les classes, on incite les enfants à prendre des douches plutôt que des bains. En tout cas, la question se pose, et pour réfléchir, en tout cas pour partager les réflexions, à Dreux, le 25 janvier, se tiendra un colloque. C'est un bien grand mot de dire un colloque, mais une rencontre entre des associations qui se préoccupent d'environnement, entre la paroisse Saint-Étienne et le cercle laïque, entre autres, sur cette question de l'eau. Donc, nous ne pouvons que vous inviter, chers auditeurs, à venir partager la réflexion sur l'eau, ici et là-bas, une richesse à partager.
Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous. Au revoir.